Europe 1, votre matinale info.
Pierre de Villeneuve.
Bonjour Marguerite Lefebvre.
Bonjour Pierre, bonjour à tous.
Il est 6h sur Europe 1, voici un premier journal.
Il est trop tôt aujourd'hui pour dire si on va vers des reconfinements locaux larges.
Après un printemps confiné, devra-t-on passer l'automne à la maison face aux courbes qui ne s'inversent pas? Emmanuel Macron envisage toutes les options.
Pour l'œuvre, en tout cas, c'est le couvre-feu qui s'applique. 54 départements concernés à partir d'aujourd'hui. Couvre-feu en ville, mais aussi à la campagne où les habitants sont totalement sidérés.
Hier, des milliers de musulmans se sont rassemblés pour la prière, comme chaque vendredi. Prière, hommage à Samuel Paty, assassiné il y a une semaine.
Et puis, ce sont des lieux souvent grandioses qui ont de quoi intimider les opéras de France. Vous ouvrent leurs porte ce week-end.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Et donc, derrière les mesures beaucoup plus dures évoquées par Jean Castex jeudi dernier, il y a bel et bien ces éventuels reconfinements locaux. Emmanuel Macron a lui-même évoqué cette possibilité hier après-midi.
Le chef de l'État était en déplacement à Pontoise auprès des soignants d'un centre hospitalier. En fonction de l'évolution de l'épidémie, les mesures de restriction sanitaire seront actualisées la semaine prochaine. Mais il faut donc s'attendre à tout, Aurélie Herbemont.
Rien n'est exclu, dit-on à l'Élysée, comme en écho un proche du Premier ministre l'admet. On ne peut plus exclure qu'il y ait des confinements locaux. L'idée n'est plus taboue, pas même dans la bouche du chef de l'État, alors que le couvre-feu vient tout juste d'être étendu.
Ces mesures n'ont pas vocation à être réduites, mais elles seront peut-être renforcées si elles ne sont pas suffisamment efficaces. Soit en s'étendant géographiquement, soit en regardant aussi les lieux, les moments où, au fond, l'épidémie se propage le plus vite, pour réduire à chaque fois ces occasions. Et donc, il est trop tôt aujourd'hui pour dire si on va vers des reconfinements locaux larges.
Les indicateurs seront examinés en milieu de semaine prochaine pour voir s'il y a stabilisation ou s'il faut envisager des restrictions complémentaires pour la suite. Couvre-feu aux horaires plus drastiques, fermeture de certains lieux ou quartiers, voire confinement local, la mise sous cloche du pays restant le scénario catastrophe à éviter. Le but, c'est de trouver des mesures pour casser l'épidémie, selon un proche du chef de l'État, sans trop faire peser de contraintes sur les gens. Un et en même temps délicat à mettre en œuvre, vu les chiffres de contamination des derniers jours.
Aurélie Herbemont, et ces chiffres, justement, ils continuent de progresser. On a passé hier la barre du million de cas recensés dans le pays. Désormais, 15% des tests réalisés reviennent positifs. Ce taux était de 4% le mois dernier.
Et pour tenter d'inverser ces courbes, un couvre-feu a donc été mis en place. Il a été étendu hier à 38 nouveaux départements.
Dans toutes ces zones, le couvre-feu s'appliquera à partir de 21h ce soir. Hier, les habitants ont eu la permission de minuit. Dernière soirée dehors avant des semaines de nuit confinées. À Rennes, plusieurs milliers de personnes en ont profité pour aller au stade, assister au match de Ligue 1 face à Angers. Charles Guyard.
À 22h50, lorsque le coup de sifflet final a retenti au Roazhon Park hier, ce n'est pas seulement un match qui s'est terminé, mais plus généralement les prochaines soirées foot au stade. Car désormais ici, les rencontres programmées le soir, il faudra les suivre à la maison, au grand regret des supporters rennais comme Damien.
C'est la dernière avant le couvre-feu, donc voilà, on va regarder les matchs à la télé, en famille. C'est pas pareil sur le canapé que dans les stades. Il faut aussi prendre des précautions, on voit bien que le contexte est quand même un peu tendu en ce moment.
Depuis cette nuit, c'est donc chacun chez soi, entre 21h et 6h du matin à Rennes comme à Angers, ville que les joueurs du Maine-et-Loire ont d'ailleurs rejoint après le match dans leur bus conduit par Michel.
Alors on est arrivé à Angers à 1h du matin, après le couvre-feu.
Du coup, comme tout le monde, l'ensemble des passagers se devait d'être en règle.
Chaque joueur dans le bus aura son attestation. S'ils ne l'ont pas, c'est 32 personnes qui sont verbalisables. On est comme tout le monde.
Et si la situation sanitaire le permet, les deux clubs peuvent encore espérer jouer devant du public le week-end prochain, puisque Rennes accueillera Brest à 17h et Angers recevra Nice à 15h, des horaires qui laissent le temps aux quelques supporters de rentrer chez eux avant le couvre-feu.
Merci.
Rennes, Charles Guyard, Europe 1.
Et sur le terrain, sachez qu'Angers a battu Rennes de buts à 1. Le couvre-feu s'étend donc en France. La mesure qui n'était réservée qu'aux citadins arrive aujourd'hui à la campagne. De nombreux départements ruraux sont désormais concernés et les habitants ne comprennent pas toujours pourquoi. Reportage en Ariège de notre correspondant Benjamin Peter.
Franchement, je ne m'y attendais pas. Ça fait très bizarre parce que c'est un département très reculé.
Jonathan a du mal à s'y faire. Saverdin, sa petite commune de 4500 habitants, est elle aussi concernée par le couvre-feu.
Je me suis dit, on est loin, c'est un petit peu vers Paris là-bas. Et au final, ça me touche à nous bien plus qu'on ne le pensait. Ouais. Pourtant, on se lave les mains, on met le masque et tout, mais au final, ça ne suffit pas.
Avec un taux d'incidence de 272 dans le département et même plus de 500 à Foix, la situation s'est brutalement dégradée ces dernières semaines. Pour Martine, c'est donc une mesure incontournable.
C'était nécessaire.
faire, hein, de toute façon. Je pense qu'il y a des étudiants qui doivent revenir dans les familles pour les vacances. Ça peut être un risque. Ça va peut-être être compliqué pour les jeunes le week-end, mais pour moi, ça changerait.
Mais Sandra, qui a dû fermer son bar hier soir pour 6 semaines, ne comprend pas vraiment pourquoi le couvre-feu ne concerne pas tout le pays.
À 10 km de Saverdun, à Bellepêche, il n'y a pas de couvre-feu. Nous avons des jeunes qui auraient fréquenté ce bar avec des règles sanitaires précises, vont aller à Carcassonne faire la fête, à 40 dans un appartement, parce qu'il n'y a pas de couvre-feu dans l'Aude. Pour moi, ça n'a pas de sens.
Et désormais, elle espère surtout que ce couvre-feu sera efficace pour éviter un reconfinement et sauver son commerce. À Saverdun, Benjamin Péter, Europe 1.
Et comment faire accepter une telle mesure à la population dans les zones qui, justement, ne sont pas en alerte maximale? On en parle tout à l'heure avec le maire de Nancy, qui est également président de la métropole. Mathieu Klein sera mon invité à 8h15.
Face au Covid, le monde est aujourd'hui suspendu à un éventuel vaccin ou à d'éventuels traitements. On sait que plusieurs médicaments ont d'ores et déjà été testés, dont la très polémique hydroxychloroquine, très appréciée par le professeur Didier Raoult à Marseille. Il a d'ailleurs demandé à en étendre l'utilisation. Anne Le Gall, ce sera non, voilà ce que lui répond l'agence du médicament.
Voilà, en tout cas, pas contre le Covid. Ce médicament vendu en pharmacie sous le nom de Plaquenil a reçu une autorisation de mise sur le marché pour le traitement de certains lupus et rhumatismes. Là-dessus, aucun problème, rien ne change. Mais par un courrier en date du 3 août, le professeur Didier Raoult demandait une RTU, une recommandation temporaire d'utilisation pour l'hydroxychloroquine. Cette recommandation aurait permis de prescrire à grande échelle cette molécule dans le traitement du Covid. Elle aurait aussi permis d'obtenir un remboursement par la Sécurité sociale. Mais pour l'heure, au vu des études disponibles, l'agence de sécurité du médicament refuse de donner son feu vert. Dans un courrier de 8 pages adressé au professeur Raoult, l'ANSM argumente sa position. D'abord, les effets indésirables de ce médicament, notamment cardiaques, apparaissent comme majorés chez les patients Covid. Ensuite, le manque d'homogénéité des études cliniques menées depuis mars, à Marseille mais aussi à l'étranger, ne permettent pas à ce stade de conclure à l'efficacité du traitement. Mais l'agence du médicament précise qu'en cas de nouveaux résultats cliniques significatifs, elle pourrait revoir sa position.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1.
La situation se dégrade en France et ça n'est pas beaucoup plus rose ailleurs. Au-delà de nos frontières, Marguerite, une partie de l'Europe se reconfine déjà. Précision d'Isabelle Horry à Bruxelles pour Europe 1.
Cette fois, ça y est, la République tchèque, le Pays de Galles, l'Irlande, une station de ski allemande et 3 communes portugaises ont basculé dans un reconfinement qui rappelle celui du printemps. Seuls les déplacements essentiels pour les courses, le travail ou parfois l'école sont autorisés. La République tchèque, pays le plus touché d'Europe, a carrément fermé écoles primaires et secondaires pour plusieurs semaines. D'autres préfèrent miser sur la fermeture complète des bars et restaurants avec parfois un couvre-feu en plus. C'est le cas en Wallonie. Les contaminations atteignent un niveau record dans cette région belge. Le couvre-feu vient d'être durci. Il commencera à 22h à partir de ce soir. C'est le cas, ou cela va être le cas aussi dans certaines régions espagnoles ou italiennes. La Suède est le seul pays à ne pas recommander le port du masque. Fidèle à sa ligne originale, Stockholm vient même d'assouplir les restrictions imposées aux seniors et aux personnes fragiles en invoquant les risques de dépression. Hier, l'Agence européenne de contrôle des maladies a estimé que la situation dans 23 pays de l'Union était désormais très grave. Bruxelles, Isabelle Horry, Europe 1.
Et on apprend ce matin que l'Allemagne vient de passer la barre des 10 000 morts depuis le début de l'épidémie.
6h08, une semaine après l'assassinat de Samuel Paty, le gouvernement veut renforcer la loi.
En sanctionnant les auteurs de messages menaçants sur les réseaux sociaux, en protégeant davantage les fonctionnaires, voilà les propositions issues du Conseil de défense convoqué hier à l'Élysée. Hier, jour de prière très particulier pour les musulmans de France. La plupart des imams ont consacré leur prêche à ce drame, à cet attentat. Reportage à Montfermeil de Caroline Baudry.
Face à l'imam, des dizaines de fidèles musulmans à l'écoute du prêche et du message porté ce vendredi. Nous condamnons avec la plus grande fermeté l'attaque du professeur dans les Yvelines.
Aucune religion ne serait acceptée qu'une action aussi abominable. L'islam se désavoue de ces fanatiques barbares.
Les moqueries envers le prophète ne sont pas des choses nouvelles. Le prophète interdit de se venger, rappelle l'imam aux hommes de l'assemblée. Certains sont venus avec leurs enfants, comme Karim, bouleversé par l'assassinat de Samuel Paty.
Les musulmans, nous sommes doublement meurtris. On perd une personne de notre famille. Cet acte-là a soi-disant été fait en notre nom. Je voudrais dire à la France entière et à tous ceux qui écoutent que nous y sommes pour rien, que nous regrettons cet acte. Nous sommes là en paix, l'islam veut dire paix, et nous nous battrons et nous lutterons à vos côtés et ensemble, nous y arriverons.
Ils sont près de 800 à avoir assisté ici aux différents prêches qui tous ont rendu hommage au professeur décapité.
Un reportage de Caroline Baudry.
Et Abdelali Mamoun, l'imam d'Alfortville, sera avec nous tout à l'heure à 7h40.
Le Premier ministre, ce matin, doit dévoiler une série de mesures pour lutter contre la pauvreté. Jean Castex prendra la parole au cours d'un déplacement dans l'Essonne. Il devrait notamment annoncer l'ouverture de nouvelles places d'hébergement d'urgence.
C'est l'un des phénomènes de cette année 2020, le boom du vélo. Geste barrière par excellence, il séduit de plus en plus.
Et plus il y a de vélos, plus il y a d'accidents. Enfin, c'est ce que l'on croit. À Strasbourg, où 15% des trajets se font en pédalant, eh bien, on constate que la circulation est plus apaisée, moins dangereuse. En fait, Arthur Mbaché, les vélos sont tellement nombreux que les voitures sont obligées de ralentir.
Et désormais à Strasbourg, la meute impose son rythme. C'est ce que Fabien Masson d'une association de défense de la bicyclette appelle la masse critique. Ce moment où, cerné sans cesse par les vélos, les voitures rendent les armes.
Vous prenez une situation avec un automobiliste qui arrive à un carrefour, et bien déjà quand il y a 5 ou 6 cyclistes qui arrivent, et bien il n'y en a pas qu'un. Et de fait, l'automobiliste va laisser la place aux cyclistes.
Résultat, de plus en plus de vélos, 20% en un an, de moins en moins d'accidents impliquant des vélos, baisse de 34%. Ce phénomène, attention, concerne essentiellement l'hypercentre de Strasbourg, relativise le vice-président écologiste de l'Eurométropole, Alain Yund.
Aujourd'hui, il nous faut augmenter encore le réseau cyclable au-delà du centre-ville, construire un certain nombre de passerelles, de ponts, de souterrains. Et on espère fortement qu'à travers le plan de relance, le gouvernement contribue aussi à cette politique-là.
Avis aux automobilistes grenoblois, nantais, bordelais. Jusqu'à présent, vous aviez l'habitude de régner sur la chaussée. Eh bien, vos villes devraient être les prochaines à atteindre cette fameuse masse critique de cyclistes.
Arthur Mbaché à Strasbourg pour ding, Europe 1. En football, il y aura deux affiches ce soir. En foot, 8e journée de Ligue 1, Lorient-Marseille à 17h et puis PSG-Dijon à 21h. Après leur défaite en Ligue des Champions face à Manchester, les Parisiens doivent se remobiliser. Écoutez notre consultant, Reynald Pedros.
On sait que Paris a eu vraiment beaucoup de mal en Ligue des Champions. Après, le championnat, c'est encore différent. Le PSG, même amoindri en championnat, réussit et peut réussir à gagner des matchs. Maintenant, ce qui est toujours bien dans le football, c'est que, et surtout dans cette période-là, entre la Ligue des Champions et le championnat, c'est que tu rejoues très peu de temps derrière, alors ça te permet de te remettre dedans très rapidement, et là, ça va permettre aux joueurs de se remettre dans le bain très rapidement pour affronter Dijon.
Reynald Pedros. Puis c'est un événement qui, comme beaucoup d'autres, a été décalé en raison de l'épidémie. La 14e édition de Tous à l'Opéra, prévue au mois de mai, se déroulera finalement ce week-end.
C'est l'occasion de vous évader un peu en respectant bien sûr les gestes barrières pendant 48 heures. Vous pourrez vous immiscer dans cet univers, découvrir les coulisses feutrées des opéras de France, lors d'Autriche.
Après une période d'abattement, les salles d'opéra se sont adaptées au contexte. Moins de public lors des concerts, des programmations sans entracte, des œuvres plus courtes. Mais ils sont là, les chanteurs d'opéra. Et durant tout ce week-end, vous pourrez les rencontrer dans les 22 opéras de France. La chanteuse lyrique Karine Dehaie, marraine de l'opération Tous à l'Opéra cette année, est prête à accueillir le public.
Et je disais effectivement que je me sentais beaucoup plus en sécurité dans une salle d'opéra que même dans un train. Parce que voilà, le plafond ne fait pas 2 mètres de haut, je vous rappelle, qui fait presque 50 mètres de haut. Mais c'est vrai que je dis aux gens de venir nous soutenir. On a beaucoup souffert pendant des années d'une image élitiste. Et effectivement, il faut vraiment que les gens, on leur permette de franchir cette porte et de venir découvrir justement aussi tous les métiers qui gravitent, tous les gens aussi qui nous maquillent, qui nous habillent, qui nous fabriquent les costumes. Souvent, les gens nous disent « j'ose pas aller à l'opéra parce que je ne connais pas ». Mais beaucoup de gens aussi vont au musée sans connaître. On n'a pas besoin de connaître pour avoir une émotion.
Et Karine Dehaie donnera ce week-end 2 masterclass en public à des jeunes tout juste diplômés du Conservatoire supérieur de Paris à l'Opéra Comique.
Un reportage de Laure d'Autriche pour Europe 1 et ses portes ouvertes sont organisées dans 20 opéras de France.
Merci Marguerite Lefebvre.